Vous écoutez, on lit pour vous.
Entrevue. La santé, grande négligée de la lutte contre les changements climatiques. Un texte de Bruno Lamollet, paru le 4 décembre 2024 dans Québec Science. Pollution, vagues de chaleur, météo extrême. Tous ces phénomènes nous affectent et il est temps de s'en préoccuper. Car la santé humaine est indissociable de celle de la planète. Juin 2023. Des feux de forêt ravagent le nord du Québec et leur épaisse fumée atteint les régions plus peuplées au sud. Les agences de santé publique lancent des alertes. La fumée augmente le risque de crise d'asthme, d'insuffisance respiratoire et de troubles cardiovasculaires. Or, cette menace est exacerbée par les changements climatiques. Ceux-ci feront augmenter le nombre de feux, ainsi que celui d'autres dangers pour notre santé, comme les vagues de chaleur et les maladies importées par des animaux migrant vers le nord. Il est grand temps de s'y préparer. Et pourtant, décembre 2023. Québec annonce la composition de son comité d'adaptation au changement climatique. 11 spécialistes de différents milieux, mais personne du monde de la santé. Ce manque de discernement désole Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, AQME. Heureusement, une spécialiste en santé publique a été recrutée par la suite, lance la détentrice d'une maîtrise en environnement et développement durable. Mais ça en dit long sur notre vision en silo de la santé et de l'environnement. De même, sur les 50 mesures du plan de réforme de notre santé, piloté par le ministre Christian Dubé, aucune ne mentionne les changements climatiques et l'environnement. Pour Claudel Pétrin-Desrosiers, santé et environnement sont indissociables. Plus vite on le reconnaîtra et plus vite on agira, et mieux notre santé et l'environnement s'en porteront, ainsi que notre système de santé lui-même. Québec Science. Comment vous êtes-vous intéressé à la lutte environnementale? Claudel Pétrin-Desrosiers. En 2011, pendant mes études en médecine, un collègue m'a fait lire un rapport publié en 2009 dans la prestigieuse revue The Lancet. En résumé, ses signataires y déclaraient « Les changements climatiques sont la principale menace à la santé mondiale du 21e siècle. » On y citait, entre autres, les effets sur l'accès à l'eau potable, la production alimentaire, le logement, les migrations humaines, les maladies, et les événements météo extrêmes. On y soulignait aussi comment tout cela allait affecter de façon disproportionnée les régions les plus défavorisées du globe. C'était le premier rapport d'envergure sur ce sujet. Il était pourtant passé quasiment inaperçu dans les médias. Pour moi, qui m'intéressais déjà aux questions de santé internationale et de droits de la personne, cette lecture a complètement changé ma vision des choses. Pourquoi n'avais-je jamais entendu parler du lien entre santé et environnement? Il est devenu clair que je ne pouvais pas exercer la médecine en ignorant ces questions. Puis, en 2014, peu après la publication du rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, les auteurs du chapitre sur la santé mondiale ont publié les éléments à retenir dans The Lancet. Ils y confirmaient les conclusions de l'article que j'avais lu en 2011, tout en affirmant que la lutte contre les changements climatiques représentait la meilleure façon d'améliorer la santé partout dans le monde et de réduire les inégalités sociales en santé. La santé, ça touche tout le monde de près. C'est donc potentiellement le sujet le plus rassembleur auprès de la population et des gouvernements pour les motiver à agir. Plus que la simple défense de l'environnement. Québec Science. Notre système de santé peut-il faire face à une augmentation de l'affluence provoquée par les changements climatiques? Claudel Pétrin-Desrosiers. Plusieurs collègues, notamment à l'AQME, craignent que le système de santé ne puisse prendre tout le monde en charge convenablement si des événements extrêmes se succèdent rapidement, s'additionnent ou durent longtemps. Lorsqu'un dôme de chaleur s'est installé pendant une semaine sur Vancouver à l'été 2021, les urgences et le transport ambulancier ont été débordés. On a compté plus de 600 décès en excès par rapport à la normale. Mais ce n'est pas qu'une question de nombre de patients. Les changements climatiques affectent directement le système de santé. Ainsi, pendant les feux de l'été 2023, lorsque les flammes se sont approchées de cette île, il a fallu fermer partiellement l'hôpital. De nombreux traitements et interventions ont été reportés. Et il a fallu déplacer des patients vers les grands centres, comme Montréal ou Québec. Des personnes, parfois fragiles, avec des troubles cognitifs, se sont retrouvées seules, à des centaines de kilomètres de chez elles. C'est le genre de situation qui provoque de dangereuses crises de délirium, soit une atteinte des fonctions cognitives et des troubles du comportement. À Ottawa, en juin, le bloc opératoire d'au moins un hôpital, le Carleton Place and District Memorial Hospital, a dû fermer parce que son système d'alimentation en air était envahi par la fumée. Vous écoutez Entrevue. La santé, grande négligée de la lutte contre les changements climatiques. Québec Science. Et la santé mentale? Claudel Pétrin-Desrosiers. On la néglige. Selon une étude québécoise de 2021, en cas d'inondation de logements, après des pluies torrentielles par exemple, près d'une personne sur deux souffre d'anxiété, de dépression, de troubles du sommeil ou de stress post-traumatique. C'est la même chose pour les gens dont la maison brûle lors d'un feu de forêt. Lors de ce genre d'événements extrêmes, il faut être capable de déployer rapidement des équipes en santé mentale sur le terrain, parfois en région éloignée. De plus, on sent chez beaucoup de jeunes une inquiétude face à l'avenir. Pas nécessairement assez forte pour mener à un diagnostic, mais suffisamment élevée pour craindre une forme de désengagement envers le futur, le travail, la société. On entend parler d'éco-anxiété. Je préfère dire éco-émotion, qui est plus large. Ça inclut, par exemple, l'incompréhension des jeunes face à l'inaction des gouvernements. Québec Science. La profession médicale réalise-t-elle l'importance des changements climatiques et de l'environnement sur la santé? Claudel Pétrin-Desrosiers. Ça commence. En 2020, sur 2817 facultés de médecine de 112 pays, seulement 15% abordaient les changements climatiques, et souvent à la demande des étudiants. Au Canada, en 2020, 86% des étudiants et étudiantes en médecine souhaitaient que la santé environnementale soit incluse dans leur formation. Depuis l'automne 2024, le nouveau cursus de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, où j'enseigne, aborde la santé environnementale dans un cours d'introduction, puis à travers l'ensemble du cursus. Le problème, c'était que les profs hésitaient à enseigner un sujet qu'ils maîtrisaient mal. On a donc monté une série de 10 webinaires à leur intention. On y aborde les concepts de base, puis les effets des changements climatiques sur, par exemple, le cœur, les poumons, la santé mentale et les allergies. Le dernier webinaire porte sur la responsabilité du personnel de la santé pour réduire l'empreinte environnementale du réseau et aussi à agir comme des agents de changement dans le milieu. On aborde également ce dernier sujet avec les élèves. Québec Science. Est-ce que la lutte contre les changements climatiques peut se faire dans un cabinet de médecin? Claudel Pétrin-Desrosiers. Certains estiment que le rôle du médecin se limite à ce qu'il ou elle fait dans son cabinet. Que le militantisme, c'est pour d'autres. Sauf que, selon le chapitre 3 de notre code de déontologie, nous avons le devoir de nous préoccuper des besoins de santé des gens sur le plan individuel et collectif. Or, il est clair que les changements climatiques représentent une menace à la santé individuelle et collective. Pour moi, c'est impossible d'exercer mon métier sans avoir une préoccupation environnementale. Les médecins jouissent d'une grande crédibilité auprès de la population, des médias, des gouvernements. J'estime que je dois me servir de la mienne pour intervenir publiquement, par exemple, pour réclamer des mesures contre la pollution atmosphérique. Mais au bout du compte, c'est une question de conscience et un choix personnel. Québec Science. Pouvez-vous décrire des situations où les questions de santé et d'environnement rejoignent celles de la société? Claudel Pétrin-Desrosiers. Dans les quartiers urbains plus aisés, on retrouve plus d'espaces verts que dans les secteurs plus défavorisés. Or, cette verdure rafraîchit l'air et constitue un très bon moyen de contrer les îlots de chaleur. La végétation filtre aussi une partie de la pollution, et les milieux naturels font de très bonnes éponges pour absorber l'eau lors des pluies extrêmes. De plus, les bienfaits de la nature sur la santé mentale et sur la santé en général sont démontrés. 20 minutes en plein air, même sans bouger, ça diminue la pression artérielle et le taux salivaire de cortisol, l'hormone du stress. Le nombre d'études sur les bienfaits de la nature pour la santé a explosé au cours des dernières années. Je trouve que certaines sont plus solides que les études sur d'autres traitements qu'on prescrit régulièrement. Québec Science. Êtes-vous optimiste? Claudel Pétrin-Desrosiers. Oui, parce que la santé touche et motive tout le monde, comme je le disais plus tôt. Et aussi parce que chaque geste posé pour lutter contre les changements climatiques ou pour s'y adapter aura des effets positifs tangibles sur notre santé. Ce n'est bien sûr pas une excuse pour traîner, car plus on attend, plus ce sera difficile ou cher d'agir. Mais je n'adhère pas au discours catastrophiste du « minuit moins une ». Il ne sera jamais trop tard pour sauver des vies ou améliorer la qualité de vie des gens en préservant l'environnement. C'était « Entrevue, la santé, grande négligée de la lutte contre les changements climatiques ». Un texte de Bruno Lamollet, paru le 4 décembre 2024 dans Québec Science.
Quand peut-on s'aventurer sur la glace? Un texte d'Éric Martel, paru le 30 décembre 2024 dans La Presse. La veille de Noël 2024, un motoneigiste a perdu la vie après avoir sombré dans la rivière Aricana. En moyenne, chaque année, 7 Québécois se noient durant la saison hivernale. Le facteur déterminant, c'est d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, résume le directeur général de la Société de sauvetage, Reynald Hawkins. Voici un petit guide pratique pour éviter le pire ou pour y réagir. Des apparences trompeuses. Ce n'est pas parce qu'une surface d'eau est couverte de neige qu'il est possible de s'y promener. Bien au contraire. La neige a un facteur d'isolation qui mène la glace à s'amincir, explique M. Hawkins. Souvent, ce qu'on a au Québec, c'est l'équivalent d'un millefeuille dans lequel la glace n'est pas très épaisse, très friable, surtout en début de saison. Pour que la glace devienne épaisse, il faut compter sur plusieurs jours consécutifs où le mercure descend sous les moins 10 degrés Celsius. Lorsque la température baisse soudainement, on pourrait penser que la glace est épaisse et solide. Mais en réalité, l'alternance de températures peut avoir forcé la glace à se dilater et à se contracter, ce qui crée des rides de pression, explique l'experte en sécurité sur glace, Lynn Colba, dans un guide publié sur le site de la Croix-Rouge. Fiez-vous à la couleur de la glace. Si elle est transparente ou noire, elle est épaisse. Une couleur grise indique la présence de bulles d'air, donc d'un danger potentiel. Évitez la glace blanche qui indique carrément la présence d'eau. Pour les sports motorisés, l'idéal est de prendre une perceuse et un outil de mesure pour déterminer l'épaisseur de la glace. Un minimum de 12 cm de glace est nécessaire pour se déplacer en motoneige ou en VTT. Il faut compter sur 20 à 30 cm pour rouler sur la glace en voiture et de 30 à 38 cm pour le faire dans un camion de poids moyen. Vous pouvez aussi vérifier avec les autorités locales, comme les municipalités, si des mesures d'épaisseur de la glace ont été prises récemment, précise M. Hawkins. D'autres mesures de précaution sont à prendre. Suivez toujours les sentiers balisés puisqu'ils font l'objet d'une inspection de sécurité régulière. Planifiez votre itinéraire pour ne pas être surpris par les conditions sur place. Portez des vêtements adaptés, comme une combinaison thermique flottante ou un vêtement de flottaison individuelle, VFI, qui pourrait vous sauver la vie en cas de chute. Et en tout temps, informez un proche de vos déplacements si vous partez seul. À pied ou en patin, ne vous déplacez jamais sur une surface glacée dont l'épaisseur est de moins de 10 cm. Apportez toujours de l'équipement de survie lors de déplacements à pied, en ski de fond, en patin ou lors de matchs de hockey, comme des pics à glace, une corde et un sifflet. Et surtout, reconnaissez les signes. Évitez les surfaces fissurées. Un bruit de craquement n'est pas nécessairement synonyme de danger. Mais si ces bruits s'accumulent, méfiez-vous. Surveillez la présence de bulles d'air, de trous d'eau ou de rides de pression. Les rides de pression sont un peu comme des plaques tectoniques, explique Mme Colba. Les plaques de glace se divisent, se soudent au regel, puis peuvent se séparer de nouveau à une certaine température. Se sortir du pétrin. Vous devriez toujours éviter de vous promener seul sur une surface glacée. Mais si vous prenez ce risque et que vous tombez dans l'eau glacée, quelques gestes pourraient vous sauver. Reprenez d'abord votre souffle. Sans faire de mauvais jeu de mots, le plus important est de garder son sang-froid, résume M. Hawkins. Dans le trou d'eau dans lequel vous vous trouvez, de la glace se formera rapidement. Avec vos mains, brisez-la et tentez de sortir vos bras de l'eau. Si vous parvenez à accoter vos bras sur la glace sans qu'elle ne brise, c'est qu'elle est assez épaisse pour supporter une partie de votre poids. Glissez vos bras sur la glace jusqu'aux aisselles, puis battez des jambes comme si vous nagiez pour sortir votre tronc de l'eau et le déposer sur la glace. À ce moment, commencez à ramper. Ne vous mettez surtout pas debout, vous pourriez briser la glace, prévient M. Hawkins. Rampez ou roulez, puis lorsque vous voyez que la glace est plus solide, déplacez-vous à quatre pattes. Aidez une victime. Si vous voyez quelqu'un tomber dans l'eau, ne courez surtout pas près de lui. Rampez en tentant de tendre un objet comme une branche, un bâton de hockey ou même votre manteau vers la victime pour l'aider à se sortir du trou. Dès que vous en avez la chance, contactez le 911. Les secours seront en mesure de composer avec une potentielle crise d'hypothermie. Trouvez un endroit pour réchauffer la victime, mais évitez de lui offrir de l'alcool ou une boisson chaude comme un café. On veut éviter d'activer la circulation sanguine, explique M. Hawkins. Il faut simplement s'assurer de réchauffer le corps. Finalement, rassurez la victime qui risque de ressentir de la panique. C'était « Quand peut-on s'aventurer sur la glace ?» un texte d'Éric Martel paru le 30 décembre 2024 dans la presse.
Freiner la fraude sur le vin, pas si simple. Un texte de Stéphanie Martin paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir. Pour votre 40e anniversaire de mariage, vous décidez de déboucher ce Romané Conti que vous gardiez depuis si longtemps pour une occasion spéciale, et pour cause, la bouteille vous a coûté des milliers de dollars. Sauf que le précieux nectar goûte finalement le vin de table vinaigré. Avez-vous été victime de fraude et de contrefaçon? C'est possible, parce que si les viniculteurs usent des avancées technologiques pour protéger leur vin, les escrocs, eux aussi, s'adaptent et les détournent à leur propre avantage, limitant les bénéfices des mécanismes de sécurité. La fraude liée au vin peut prendre plusieurs formes, dont celle-ci. Des étiquettes de vin prisées apposées sur des bouteilles au contenu de piètre qualité. Comment savoir que le vin n'est pas celui indiqué sur l'étiquette? La tâche peut être ardue, notamment en raison de la grande valeur de certains vins. Quel vendeur ouvrirait une bouteille pour tester la qualité du lot? Et puis, dans certains cas, les fausses bouteilles sont mélangées dans une caisse avec les vraies, compliquant encore plus leur détection, explique au Devoir Maureen Downey, une gestionnaire de collection de vins privés surnommée la Sherlock Holmes des vins. Si les grands domaines viticoles ajoutent des éléments de sécurité comme des hologrammes, des puces électroniques et de l'encre invisible sur leurs étiquettes, les fraudeurs se munissent à leur tour d'imprimantes perfectionnées pour les copier. Mais il demeure toujours utile de scruter à la loupe les étiquettes, selon Mme Downey. Certains types de papier ne sont entrés sur le marché que dans les années 1960 et ne peuvent se retrouver sur des bouteilles des années 1940. Des étiquettes jaunies de façon irrégulière peuvent être un signe qu'on a tenté de les faire vieillir avec du vinaigre ou du tabac. La marque distinctive d'un vin peut être intégrée directement dans le verre de la bouteille. Le Grand Cru d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, par exemple, possède une bouteille armoriée qui exhibe son écusson en relief. Dans un contexte de concurrence mondiale exacerbée, où l'usurpation et la contrefaçon font rage, c'est un atout majeur pour Châteauneuf-du-Pape de posséder une marque collective dotée d'une forte identité et d'une protection juridique indiscutable, peut-on lire sur son site web. Bien connaître ses vins évite aussi de se faire arnaquer. Un expert a possiblement sauté de l'embarras en 2016 une maison d'encan suisse en lui signalant que certains Romané Conti 1978 de son catalogue étaient vraisemblablement faux, car les bouteilles portant le nom du château en relief n'auraient été utilisées que pour la cuvée 1974. Et puis, il y a cette autre méthode pour frauder, détaille Mme Downey en entrevue depuis la Californie. Des serveurs dans de grands hôtels et des casinos se font payer pour récupérer les bouteilles vides et les bouchons des grands vins. Elles sont ensuite remplies de vins fort ordinaires. Dans ce cas, inutile de chercher l'erreur sur l'étiquette. La technologie à la rescousse. Le domaine Blanquier, dans la vallée de Napa, en Californie, a adopté dès 2005 un scellé de sécurité issu de l'entreprise ProofTag, une réelle empreinte digitale unique à chaque bouteille. Ce scellé contient un code à bulles, une technique de cryptage utilisant de petites bulles qui ne semblent suivre aucune logique, le logo du vignoble en plus d'un code QR. Il sert de témoin d'effraction, car si la bouteille est ouverte, le scellé est détruit. Son code unique permet au futur acheteur d'accéder au site web de l'entreprise et de s'assurer que la bouteille est authentique. Ce scellé vise à empêcher un second remplissage des bouteilles, précise ProofTag sur son site. De son côté, Maureen Downey et son entreprise, Chai Consulting, offrent des séminaires pour que les participants puissent se familiariser avec le modus operandi des fraudeurs et éviter de se faire prendre. Ils apprennent notamment à examiner une bouteille de vin sous tous ses angles. L'experte, qui a maintes fois témoigné à la cour, note que les grands domaines vinicoles ont incorporé diverses techniques antifraude comme l'encre invisible. Mais tout ce qu'ils font est d'encourager de meilleures contrefaçons. Elle rappelle que, lorsque le fraudeur russe Alexander Lugov a été arrêté à l'automne 2024, la police a rapporté qu'il possédait de l'équipement haut de gamme, dont une imprimante numérique pouvant reproduire les mêmes étiquettes que les grands domaines. Elle déplore le manque d'appétit de l'industrie pour s'assurer que ces produits ne sont pas contrefaits ni altérés. Les producteurs et les maisons de vente aux enchères ne veulent pas que les acheteurs voient à quel point la fraude de vin est un problème, dit-elle. Tant que les consommateurs ne seront pas plus exigeants envers l'industrie, ils vont se faire frauder. Même les honnêtes négociants de vin peuvent être victimes lorsque des bouteilles contrefaites se faufilent jusque dans des chaînes d'approvisionnement légitimes. Parfois, un complice remplace une vraie caisse par une fausse dans les palettes de livraison sans que le vendeur en ait connaissance. Pour régler ce problème, Mme Downey a elle-même créé une solution intégrant la technologie de la chaîne de blocs, blockchain, pour que la bouteille soit traçable à toutes les étapes, du producteur jusqu'à l'acheteur. En effet, tant que les solutions seront cosmétiques, elles peuvent être contrefaites et ne constituent pas une solution complète au problème de la fraude sur le vin. L'experte note aussi que plusieurs domaines ne vendent désormais que directement aux collectionneurs privés, afin d'éviter tout intermédiaire qui pourrait saboter la réputation de leur millésime. « Nous devons rester vigilants, dit-elle, et garder une longueur d'avance sur ces criminels. » C'était « Freiner la fraude sur le vin pas si simple », un texte de Stéphanie Martin, paru le 28 décembre 2024 dans Le Devoir.